Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Avant de continuer notre explication des commandements de Dieu selon le catéchisme du Concile de Trente, rappelons encore une fois, parce que c'est important, le lien entre ces commandements de Dieu et la charité, notre amour de Dieu. C'est notre Seigneur lui-même qui a montré ce lien dans son discours après la scène. « Si vous m'aimez, dit-il, gardez mes commandements. » La pratique des commandements, c'est le moyen de prouver notre amour à notre Seigneur. Et inversement, comment pouvons-nous dire à Dieu que nous l'aimons si nous ne voulons pas accomplir ce qu'il nous demande pour sa gloire et pour notre bien? Voici comment nous savons que nous avons connu notre Seigneur, dit saint Jean, c'est si nous gardons ses commandements. Celui qui dit qu'il le connaît et qui ne garde pas ses commandements, c'est un menteur et la vérité n'est pas en lui. Mais si quelqu'un garde sa parole, l'amour de Dieu est vraiment parfait en lui et c'est par là que nous savons que nous sommes en lui. Nous savons que nous aimons le bon Dieu si nous faisons sa volonté. Voilà. Mais continuons le catéchisme. Nous sommes arrivés aujourd'hui au quatrième commandement de Dieu. Ce quatrième commandement ouvre la deuxième partie du décalogue. Après nous avoir enseigné nos devoirs envers Dieu, les plus importants, le décalogue nous parle maintenant de nos devoirs envers notre prochain. Le catéchisme rappelle cependant qu'il ne faut pas trop séparer devoir envers Dieu et devoir envers le prochain, amour de Dieu et amour du prochain. Un jour, un docteur de la loi demanda à notre Seigneur, « Maître, quel est le plus grand commandement de la loi ?» Jésus lui dit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. C'est là le plus grand et le premier commandement. Mais le second lui est semblable, tu aimeras ton prochain comme toi-même. » Dans ces deux commandements, dit notre Seigneur, sont renfermés la loi et les prophètes, toute la morale chrétienne. Pour notre Seigneur, le commandement de l'amour du prochain est donc semblable au commandement de l'amour de Dieu. Et en effet, il faut toujours se rappeler que pour un chrétien, eh bien Dieu est le but suprême pour lequel nous aimons notre prochain. Comme le dit saint Thomas d'Aquin, la raison pour laquelle nous devons aimer notre prochain, c'est Dieu. Et il dit, nous devons en effet aimer notre prochain pour qu'il soit en Dieu et pour qu'il glorifie Dieu dans l'éternité. La charité, c'est une vertu, charité surnaturelle, c'est une vertu qui unit notre volonté à la volonté de Dieu. Dès lors que nous ne faisons plus qu'un avec la volonté de Dieu, eh bien, cette charité nous aidera à vouloir pour le prochain le bien que Dieu veut pour ce prochain, et ce bien suprême qui est Dieu lui-même. On ne peut rien souhaiter de plus grand et ne rien donner de plus grand à quelqu'un que de lui donner Dieu qui est le plus grand de tous les biens. Mais il y a une hiérarchie dans la charité, parce qu'il y a une hiérarchie dans nos prochains. Le mot « prochain » indique d'ailleurs qu'il y a des personnes qui nous sont plus proches que les autres, c'est évident. Alors toujours pour bien nous placer à ce niveau de la charité surnaturelle, eh bien il faut se dire ici, comme Dieu aime davantage ceux qui lui sont le plus unis, et que par la charité nous ne faisons qu'un avec Dieu, eh bien la charité surnaturelle nous portera intérieurement à aimer davantage ceux qui sont les plus proches de Dieu. On peut dire que ceux qui sont les plus saints sont notre premier prochain sur le plan surnaturel. Cependant, une sainte personne peut, hélas, toujours défaillir, tandis qu'il y a des prochains avec qui nous demeurerons toujours liés, quelle que soit leur sainteté ou leur absence de sainteté. Ce sont ceux avec qui nous sommes unis par les liens du sang. C'est notre famille, ce sont nos parents. Et justement, ce sont nos devoirs envers nos parents qu'examine en premier lieu le quatrième commandement de Dieu. Honore ton père et ta mère, afin que tu vives longtemps sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donnera. » C'est ce que Dieu dit à Moïse sur le mont Sinaï, lorsqu'il lui a révélé la loi naturelle. Comme le commandement de l'amour du prochain est semblable au commandement de l'amour de Dieu, alors c'est en regardant la manière dont nous devons aimer Dieu que nous comprendrons, que nous verrons comment nous devons aimer nos parents. Il faut bien se placer très haut à partir de Dieu pour comprendre tout cela. Dans son catéchisme de la famille chrétienne, le père Emmanuel écrit « Dieu, ayant voulu créer la famille, délégua aux pères et mères une part de son autorité. » Parents, l'autorité qu'ils ont, c'est une part de l'autorité de Dieu. Dieu le leur a délégué. D'où il suit qu'il faut rendre aux parents qui sont sur la terre un honneur qui soit une ressemblance de l'honneur rendu au Père qui est dans les cieux. Et ainsi, comme nous adorons Dieu qui est dans le ciel, nous devons honorer nos parents ici-bas. Comme nous aimons Dieu, nous devons aimer nos parents. Et comme nous obéissons à Dieu, nous devons obéir à nos parents, du moins tant que nous sommes sous leur autorité. Donc, honorer nos parents, les aimer, leur obéir, eh bien voilà les trois devoirs principaux que nous avons à leur égard. Alors nous devons tout d'abord honorer nos parents. Partons de Dieu. De la même manière que nous devons rendre un culte à Dieu, puisque c'est de lui que nous tenons notre existence à chaque instant et que Dieu gouverne notre vie. Eh bien, de même, nous devons vénérer nos parents qui ont collaboré avec Dieu pour nous donner la vie et l'éducation. Et ici, le catéchisme a des paroles très fortes qu'il faut rappeler à notre époque, c'est important. On oublie ces choses-là. Les parents sont comme une sorte de personnification du Dieu immortel. Nous contemplons en eux l'image de notre origine. Par eux, la vie nous a été transmise. C'est d'eux que Dieu s'est servi pour nous communiquer l'âme et l'intelligence. Ce sont eux qui nous ont ouvert la voie des sacrements, qui nous ont élevés dans la religion, qui ont cultivé en nous l'homme et le citoyen, qui nous ont formés à la pureté des mœurs et à la sainteté. Et l'Ancien Testament en particulier donne de magnifiques exemples de piété filiale. Joseph, par exemple, Joseph qui était devenu surintendant de Pharaon et vice-roi de toute la terre d'Égypte, à qui tout le peuple obéissait au doigt et à l'œil. Eh bien, Joseph, dès qu'il fut informé que son père, Jacob, arrivait de Palestine, il fit atteler ses chars, il se rendit au devant de son père en grand apparat, afin de lui faire honneur. Et lorsqu'il fut en sa présence, il se jeta au cou de son père et il se mit à pleurer comme un enfant. Lorsque le roi Salomon, assis sur son trône d'ivoire, recouvert d'or pur, au sommet de 6 marches, entouré de gardes, lorsqu'il vit arriver sa mère dans la salle du trône, il se leva aussitôt. Il la salua très respectueusement et il la fit asseoir sur un trône à sa droite. Et notre Seigneur Jésus-Christ vis-à-vis de Notre-Dame, sa mère. Hier, au bréviaire dominicain, pour la fête de Marie-Reine, les matines nous donnaient ces réflexions de saint Bonaventure. S'il convient au Fils d'honorer sa mère, il convenait que notre Seigneur partage avec Notre-Dame le siège de sa royauté. Ainsi, la Vierge Marie, du fait qu'elle a conçu celui qui porte sur lui l'inscription « Roi des rois et Seigneur des seigneurs », dès l'instant qu'elle conçut le Fils de Dieu, fut reine, non seulement de la terre, mais du ciel. Notre Seigneur était roi sur un trône. Par piété pour sa mère, il a institué sa mère reine. Saint Thomas d'Aquin ajoute que ce devoir d'honorer nos parents implique le devoir de les assister s'ils sont dans la nécessité. Et cette obligation d'assistance va loin, puisque l'Église ne permet pas à des enfants d'entrer en religion si leurs parents sont dans une telle nécessité que le seul moyen de les secourir est de rester dans le monde. Les enfants ont aussi le devoir d'assurer à leurs parents une vieillesse heureuse qui leur permettra d'exercer sur toute la famille le rôle irremplaçable qui est le leur en tant que grands-parents, à savoir de représenter la sagesse. Nous avons besoin des cheveux blancs. Notre société aujourd'hui meurt de rejeter les anciens. Et c'est un crime contre nature qui ne peut qu'apporter la malédiction à cette civilisation-là. Enfin, le devoir d'assistance envers les parents comporte le devoir de les assister au moment de leur mort, leur procurant les secours spirituels, et après leur mort, à faire célébrer des messes pour le repos de leur âme. Mais honorer nos parents ne suffit pas. Bien sûr, il faut les aimer. En soi, ce ne serait même pas la peine de le dire, c'est évident. Il faut que les égards que nous témoignons à nos parents montrent que cela vient de l'amour que nous leur portons. Et relisons encore le catéchisme. Nous le leur devons bien, cet amour. Eux dont la tendresse est telle qu'ils n'ont reculé pour nous devant aucune fatigue, aucun effort, aucun sacrifice. Non seulement notre père, mais aussi notre mère, qui nous a portés dans son sein pendant 9 mois, qui nous a mis au monde et qui nous a élevés. Et bien en retour, que pouvons-nous leur apporter sinon notre amour ? Et à l'inverse, manifester à ses parents de l'indifférence, leur causer du chagrin par méchanceté, avoir des paroles blessantes, les mépriser, les abandonner, eh bien ce sont des péchés graves. Après le respect et l'amour, le troisième devoir des enfants envers leurs parents est l'obéissance. Ce sont les avis de saint Paul dans son épître aux Éphésiens. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, c'est chose juste. Et aux Colossiens, il dit encore, enfants, obéissez en tout à vos parents, c'est une chose agréable à Dieu. Il faut bien comprendre que c'est le bon Dieu qui a mis cette hiérarchie dans le foyer et donc qui commande cette obéissance, avec bien sûr les limites de la foi et de la morale, comme toujours. Et lorsque l'obéissance coûte aux enfants, et l'obéissance est toujours un sacrifice qui coûte à notre nature blessée, eh bien lorsque l'obéissance coûte aux enfants, il faut leur rappeler qu'à travers les parents, c'est à Dieu qu'ils obéissent. En obéissant à leurs parents, ils vénèrent Dieu, ils honorent Dieu. Et s'ils leur désobéissent, ils déshonorent Dieu. Il faut toujours remonter à Dieu. Et notre Seigneur lui-même nous a montré l'exemple le plus parfait en obéissant à son Père jusqu'à la mort de la croix. Jusqu'à quand les enfants doivent-ils obéir à leurs parents ? Eh bien, pour tout ce qui concerne l'éducation, le devoir d'obéissance dure jusqu'à la majorité. Ceux qui sont majeurs, mais qui demeurent encore sous le toit paternel, doivent obéir dans les choses qui se rapportent au bon ordre de la maison. La maison, ce n'est pas un hôtel. Il convient enfin que les enfants demandent conseil à leurs parents au sujet du mariage, mais on ne peut pas parler ici d'obéissance. Les enfants sont à un niveau d'égalité avec leurs parents pour le choix de leur conjoint, comme pour le choix de l'état de vie, c'est-à-dire pour la question de la vocation. Et les enfants sont libres aussi pour le choix d'une profession. Tout en parlant du respect, de l'amour et de l'obéissance que nous devons à nos parents selon la chair, le catéchisme élargit nos regards en nous faisant remarquer qu'il existe un devoir de piété filiale à l'égard de tous ceux sur terre envers qui nous avons une dette. Ce sont d'abord nos maîtres, nos professeurs, ceux qui nous ont appris un métier ou qui nous ont appris à perfectionner notre métier, même s'ils ne sont pas catholiques, la question n'est pas là. C'est aussi notre patrie, la terre de nos pères, avec toutes les richesses culturelles, morales, religieuses, qui constituent le cadre dans lequel vivent les familles. Et là, nous avons un devoir de piété filiale envers les grands hommes d'État qui ont fait notre pays, envers nos héros, envers les grands écrivains, les grands artistes, et par-dessus envers l'Église, par-dessus tout, avec en particulier les saints de notre pays, de notre province. Apprenons à les connaître. Tout cela appartient au quatrième commandement, parce que à travers ce patrimoine, eh bien, c'est la providence divine sur notre pays que nous vénérons. Et une fois encore, ça remonte à Dieu. Nous aurions pu naître dans des pays moins favorisés sur le plan de la civilisation. Il est donc très important de transmettre tout cet héritage à la jeunesse, surtout à notre époque révolutionnaire, où le mondialisme maçonnique s'efforce de détruire tout cet héritage de nos pères, et pour mêler partout dans tous les pays les peuples et les religions, et construire leur monde athée où règnera l'Antéchrist. Le catéchisme termine en parlant de la récompense attachée au quatrième commandement et du châtiment lié à sa violation. La Sainte Écriture assure de la malédiction de Dieu ceux qui méprisent ou qui maltraitent leurs parents. Pensons à Cam, le second fils de Noé, dont la descendance fut maudite parce qu'il s'était gravement et très irrespectueusement moqué de son père. À l'inverse, la pratique du quatrième commandement est un gage de bénédiction divine pour les enfants. Honore ton père et ta mère afin que tu vives longtemps sur la terre que le Seigneur ton Dieu te donnera. Cette longue vie promise à ceux qui observent ce commandement n'est pas nécessairement à entendre de longues années, mais une vie qui sera bénie par Dieu et qui méritera le bonheur éternel. Ce sera la récompense de la pratique de ce quatrième commandement, et bien que ce soit la nôtre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.